France Inter. Le masque et la plume. Canada, Brésil, Allemagne, États-Unis, France, c'est la géographie de ce premier masque de l'année 2026. Un programme qui est aussi une séance de rattrapage, puisqu'avec l'émission spéciale dédiée aux 70 ans du masque, nous n'avons pas eu l'occasion de débattre de certains des longs-métrages qui ont marqué la fin de 2025. Je veux parler de L'Agent secret du Brésilien Kleber Mendonça Filho et d'Avatar de feu et de cendre du Canadien James Cameron. Notre affiche du jour compte aussi Une enfance allemande de Fatih Akin, La femme de ménage, adaptation d'un best-seller du même titre par Paul Feig, et nous parlerons du deuxième long-métrage d'un trio de cinéastes dont le film s'intitule Laurent dans le vent. Pour s'enthousiasmer ou se désespérer, quatre critiques sur la scène du théâtre de l'Alliance française, Muriel Joudet du journal Le Monde, Pierre Murat, tel qu'en lui-même, Ava Kahn de Frenchmania.fr et Franck Finance Madureira du journal Têtu. Des critiques, des publics, des cinémas, bonjour, bienvenue, toute l'équipe du Masque et la Plume vous souhaite une excellente année 2026. On commence bien l'année. Plusieurs films vous ont fait réagir cette semaine, à commencer par Mektoub My Love Canto Doué d'Abdelatif Kechiche. Je n'ai rien compris, enfin, je crois, écrit Catherine de Versailles. Mon Dieu que je me suis ennuyée, s'exclame cette auditrice, tandis qu'un bon nombre d'entre vous s'enthousiasment pour ce film. Kechiche filme comme nul autre les visages, la lumière, les corps, les doutes, la fragilité, écrit Anne de Paris 12e. Pour rappel, Mektoub My Love Canto Doué est le dernier volet d'une trilogie dédiée à la jeunesse de Seth, et dans ce volet ultime arrive Jessica, une jeune actrice américaine flanquée de son producteur de mari. Vous n'avez pas compris qu'avec ces Américains et leur villa hollywoodienne, Kechiche transforme la réalité des paysages sétois en voyage à Los Angeles et réinvente ainsi son cinéma, écrit Aude des Lilas. Qui est cette Jessica tragique et belle, sinon la Marilyn Monroe des désaxés? Kechiche tire un trait d'union bouleversant entre Eric Rohmer et John Huston. Vous avez aussi aimé La Condition de Jérôme Bonnel avec Swann Harlow, Louise Chevillotte et Galatea Bellougi. Florence Alibert de Paris 19e salue par exemple un scénario qui ne tombe jamais dans le manichéisme. Le personnage masculin abuse de la bonne de la maison et il n'est pas réduit à un monstre. Le film n'excuse en rien ses actes mais le présente en notable ordinaire qui répond à l'idée du masculin qu'exige de lui la société. Mise en scène et acteur impeccable, conclut cette auditrice. Lionel Zedler de Paris 14e déplore les réserves de La Tribune concernant la nouvelle comédie de Fabrice Éboué, Gérald le Conquérant, qui rit de l'absurdité des obsessions identitaires françaises. Lionel Zedler écrit « Fabrice Éboué nous oblige à regarder la bêtise en face, sans la réduire à un slogan, ni la dissoudre dans la morale. Personnellement, je n'ai pas seulement ri, j'ai aussi pleuré. » Enfin, sur Instagram, Lola m'écrit « Je ne suis d'accord avec rien quand je vous écoute. Dans le métro, avec mon casque sur les oreilles, je peux dire tout haut « Non, mais c'est n'importe quoi. » Et tout le monde me regarde d'un œil inquiet. Chez moi, je peux regarder la radio en m'exclamant « Mais pas du tout !» Et le père de mes enfants de dire au gosse « Ne vous inquiétez pas, c'est l'effet masqué la plume. » Bref, rien ne va. Et en même temps, tout va. À l'heure où la promo est partout, télé, YouTube, radio, le masque est là. Alors oui, vous m'énervez, mais j'adore ça. En conclusion de vos prises de parole par courrier, je précise qu'exceptionnellement, nous enregistrons cet épisode du masque avant la sortie de certains films au programme. Je solliciterai donc le public pour les films qu'il aura pu voir. Et de trois, je veux parler du troisième volet d'Avatar, sous-titré « De feu et de cendre » et toujours réalisé par James Cameron. On retrouve Jake Sully, ancien soldat américain définitivement installé sur la planète Pandora, où il a rejoint le peuple des Na'vi et fondé une famille qui fait face au deuil du fils aîné, tués dans l'épisode précédent. Si les Na'vi se battent toujours contre les colonisateurs terriens qui ont rendu leur propre planète inhabitable, la nouveauté de cet épisode est la mise en scène du mal au sein même des Na'vi. Il s'agit du peuple des cendres, mené par la terrible Varang, Una Chaplin à l'écran, prête à pactiser avec les humains. 16 ans après la sortie d'Avatar premier du nom, où une bonne partie de la critique et du public saluait les innovations visuelles de James Cameron, qu'en est-il aujourd'hui ? Je précise que deux autres épisodes de la franchise sont en cours de production, au moment où on se parle, pour compléter cette pentalogie. J'avais envie de dire ce mot, pentalogie. Est-ce que tu t'en réjouis, Ava ?
3h17, il faut dire que c'est quand même infiniment long. Voilà, moi, le film m'a semblé interminable. J'ai senti des cheveux blancs me pousser sur le crâne pendant la projection. Vraiment, j'aime le cinéma de James Cameron. Hein, faut que je le dise, je suis une grande fan de la saga Terminator. J'adore Titanic. Mais c'est vrai que je suis moins sensible à cette saga-ci, même si, évidemment, elle est spectaculaire et qu'elle révolutionne, comme tu l'as dit, tout un tas d'innovations voilà, technologiques. Mais si on parle du récit en lui-même, le premier Avatar était déjà une ressucée sans relief de la légende de Pocahontas, et deux épisodes plus tard, c'est un peu la même mayonnaise quand même, avec des personnages en plus, avec des méta-intrigues pour venir gonfler artificiellement le corps du feuilleton. Je trouve l'histoire toujours aussi bateau et manichéenne. C'est à peu près la même structure quand même que l'épisode précédent, les mêmes ficelles narratives, les mêmes ressorts émotionnels. Tu l'as dit dans le précédent épisode, les Na'vi, la famille Sully s'alliaient avec le peuple de l'eau face aux envahisseurs.
Là, on est passé au feu.
Voilà, c'est les méchants qui trouvent de nouveaux copains, quoi. Le côté obscur de la force Na'vi, donc, ces Na'vi pirates. Donc, les luttes se tendent un petit peu. Il y a un conflit, d'idéologie aussi qui prend corps sur Pandora. Mais très honnêtement, il n'y a plus de surprises. Et les effets visuels et les prouesses, technologiques ne se suffisent plus à elles-mêmes. Et je regrette quand même que la critique du militarisme et de l'impérialisme, qui est quand même au cœur, de cette saga soit si naïve, surtout que Avatar 2 et 3 sont sortis à l'ère Trump, et quand même ce sont des sujets majeurs pour la politique trumpienne. Donc voilà, je trouve que le récit aurait pu être davantage musclé et peut-être mettre en perspective l'histoire actuelle des États-Unis.
Pierre, toi, je ne sais pas si tu as poussé des cheveux blancs. Enfin, toi, tu n'en as plus beaucoup, je dois dire.
Non, mais... alors, j'ai vu le film en VF, il se trouve que... voilà. Et donc, c'est d'accord. Assez intéressant sur le dialogue, je vous savais. Parce que c'est pas trop mon truc, ce machin. Ça n'a jamais été les petits hommes bleus, le grand schtroumpf bleu, comme l'a appelé un critique. Bon, mais ce qui m'a absolument frappé là, c'est le gouffre qu'il y a entre le visuel et le fond, c'est-à-dire ce que l'on voit et ce qu'on entend. Alors, ce qu'on voit... Moi, je trouve ça extrêmement moche, extrêmement vulgaire, extrêmement sans intérêt. Mais la planète...
Ça fait beaucoup d'extrêmement.
Oui,
beaucoup.
Mais la planète adore ça. Donc c'est difficile d'être seul contre la planète. Il paraît que c'est très beau. Donc,
vous c'est êtes déjà beau. Deux, là, contre. Hein,
oui, oui, non, mais c'est très très beau. Dixit, la planète. Alors maintenant, ce que l'on entend, et alors là, moi, ça m'a fait penser au mauvais péplum des années 60, au mauvais film biblique des années 50 à Hollywood. Il y a des, alors, j'ai pas retenu toutes, mais il y a des choses absolument ahurissantes, comme celui qui chevauche la bête devient la bête.
Ouais.
À méditer.
Les flèches rassemblées sont impossibles à briser. Wow. Ah bon ?
Oui, bah, c'est alors, Confucius.
Oui, bien sûr, bien sûr. Mais, et je finirai par là, il y a une réplique au tout début, alors là, qui m'a posé problème, c'est le héros qui dit ça, donc dans la version française, à son fils qui veut partir avec lui, et il veut être obéi, il lui dit « On est une famille, pas une démocratie. » Alors là... Là, ça m'a paru quand même extrêmement intéressant, et je me demande si c'est pas toute la morale de toute la saga, c'est-à-dire, c'est la morale du clan, en effet, justement, face à la loi et à la collectivité. C'est un thème qui parcourt, on sort d'Avatar 3, là, mais qui parcourt un peu toutes les sociétés, et je trouve ça effarant que personne ne relève ça.
En tout cas, je pense que tu es l'un des rares spectateurs à prendre des notes pendant
Le... C'est-à-dire quand c'est tellement bête que ça excite pour prendre des notes.
Oh là là.
Alors, je crois que Muriel n'a pas pu prendre des notes parce qu'elle a vu le film avec une projection 4DX, système que tu connais bien, Pierre, hein, puisque tu nous as fait le récit, avec le fauteuil qui bouge, etc.
Expérience de mort imminente. Non, parce que j'ai découvert la 4DX, mais qui est peut-être, je ne sais pas si c'est les meilleures conditions ou les pires conditions pour voir le film, mais je me suis dit, voir le film en 2D, ça doit être terrible parce que, donc, il y avait, je me suis reçu des gouttes d'eau, je me suis reçu du vent,
des odeurs.
J'étais au bord de faire un looping, quoi. Donc, j'ai découvert, je me suis dit, c'est trop pour mon petit corps, trop pour mon âge. Et en même temps, c'est le genre de film qui me fait me sentir très, très vieille parce qu'on a comme
mais
ça.
Mais quel âge as-tu ?
Ah, je ne peux pas le dire. Ah. Un peu d'élégance. Non, 34 ans et demi. Ou 35 ans, je ne sais plus, j'ai oublié. Bref, et en fait, il y a cette impression que j'avais déjà eue avec le premier Avatar de voir à la fois le futur du cinéma et la mort du cinéma en même temps. C'est-à-dire qu'on est dans, on n'est même plus dans du cinéma, on est dans du spectacle et du sur-spectacle. Et je me suis dit, le problème que j'ai avec ces films, c'est que c'est trop d'informations d'un coup. Qui plus est, la 4DX en rajoutait encore. Mais dans chaque plan, il y a au moins il y a un milliard de choses à voir. Et je ne sais pas quel spectateur peut endurer autant de choses. Et moi, ce qui me dérange chez James Cameron, c'est que c'est quelqu'un qui pense que le futur du cinéma s'adosse au progrès technologique. Alors que moi, je pense que le cinéma, c'est une histoire de forme et pas de technologie. Et c'est un expérimentateur, mais qui n'est pas très inventif. Et comme le disait Ava, c'est-à-dire il y a quelque chose d'extrêmement simpliste et de très conventionnel à la fois dans le récit et aussi dans l'imaginaire. J'ai un souvenir comme ça d'être allé voir l'exposition James Cameron à la Cinémathèque française et d'avoir vu les dessins de jeunesse de James Cameron qui a vraiment l'imaginaire d'un jeune adolescent puceau qui aime juste les gros seins et la SF.
D'accord.
Et il n'a pas changé. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a très peu de choses dans son imaginaire et qui à la fois nous raconte des histoires décoloniales, un imaginaire antimilitariste, un imaginaire écolo, sauf que c'est un film à 400 millions de dollars, sauf que c'est un film qui colonise les imaginaires du monde entier et que c'est un film qui a comme ça un projet aussi militariste en lui-même. Donc pour moi, voilà, c'est pas Francis Ford Coppola qui par la technique essaye de réinventer une forme, c'est quelqu'un qui n'invente pas grand-chose et qui se débat avec les deux, trois pauvres idées formelles qu'il a dans son cerveau depuis qu'il a 15 ans.
Franck ?
Oui, parce que là, je me sens presque un devoir moral de sauver ce film. Mais non, je le ferai pas. Moi, j'ai juste l'impression d'être face à un jeu vidéo dont on m'a pas donné les manettes. Et tout se passe sans que je ne comprenne rien du tout. Le premier Avatar, c'était il y a longtemps, hein, j'étais très jeune. Mais je me souviens qu'on nous l'avait vendu comme une espèce de fable environnementaliste, philosophique, etc. Là, ça canarde dans tous les sens, c'est hyper violent. C'est la guerre du début à la fin. Non, c'est horrible.
Non, mais c'est vrai que ce que disait Muriel est très juste et qu'il produit des images encore, mais il ne produit plus du tout de discours. Et donc, fondamentalement...
Le discours, c'est ça.
Tellement.
La famille, pas la démocratie, excuse-moi, c'est un discours.
La saga Terminator était ultra révolutionnaire et ultra visionnaire. Il disait quand même, il préfigurait déjà, par exemple, la menace de l'IA. Oui, alors si tu veux, il produit un discours hyper paternaliste maintenant, parce que c'est vraiment pas progressif.
Un peu au-delà du paternalisme, quand même, là, si c'est à juger par cette phrase. Là, quand même, hein. Oui.
Et Franck, pour conclure,
on a juste l'impression que ça a été écrit par une IA, justement.
Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir dans le public pour Avatar de feu et de cendre de James Cameron ? Vraisemblablement non. Donc après la science-fiction et la planète Pandora, l'éclectisme du masque nous conduit à débattre d'un film à l'autre extrémité de la production cinématographique grâce au deuxième long-métrage d'un trio de cinéastes, Anton Balekjian, Léo Couture et Matteo Eustachon, tous les trois réalisateurs de Laurent dans le vent. Donc là, je pense qu'il n'y a pas de projection en 4DX. Ça commence comme un western, donc un garçon solitaire, mais dans les Alpes. Laurent a la trentaine, il n'a ni boulot ni logement, mais une moto qui le mène jusqu'à une station de ski fantôme, ou plutôt une station de ski en hibernation, puisque nous sommes hors saison. Dans ce lieu quasi désert, Laurent fait finalement plusieurs rencontres. Fares, un photographe amateur venu de Marseille, un berger qui a perdu une de ses chèvres, ou encore Sandra, herboriste quinquagénaire qui vit avec son ado de fils, fasciné par la culture viking. Baptiste Peruzza joue Laurent, Giannis Bouziani est Fares, et Béatrice Dalle, Sandra. Muriel.
Bah déjà, bravo de faire un film à trois. Moi, je pense que je me serais fritée avec tout le monde dès le premier jour du tournage. C'est, je ne sais pas comment on fait un film à trois, donc je pense qu'il y a derrière sans doute un projet comme ça, politique, qui doit être très fort. Et d'ailleurs, on arrive à avoir quand même un regard de cinéaste, alors même que le film est signé par trois personnes. Donc, moi, au début, j'ai eu un petit peu peur, parce que je me suis dit, je vois des éléments reconnaissables d'un certain cinéma français, voilà, qui rêve un peu à plein de choses, notamment à Alain Guiraudy, voilà, bon, même aux frères Larrieux. Je me suis dit, j'ai déjà vu ça, et puis, en fait, non, il y a quelque chose qui se passe, et qui est, qui, je pense, tient aussi à la jeunesse de ces cinéastes, qui disent, d'ailleurs, une chose très belle, ils disent, on voulait faire un film sur quelqu'un qui pense qu'il est à la fin de sa vie à 30 ans. Et c'est un film qui arrive, qui ne parle de rien politiquement et qui en même temps arrive à nous montrer ce qu'est cet état un peu mi-dépressif, mi-cotonneux de ce héros. L'acteur est absolument incroyable et il y est pour beaucoup, enfin d'ailleurs tous les acteurs, mais ce choix d'un acteur comme ça qui...
Baptiste Peruzza, je te redonne son nom.
Merci, parce que ouais, je ne l'avais pas. Qui a un visage... on sent qu'ils sont vraiment amoureux de ce visage. Et on sent comme ça à intervalles réguliers qu'il y a des séquences qui tournent autour de ce visage. Et que finalement, ce qui va sauver ce personnage, c'est à la fois très cucu, en même temps le film est sauvé par son premier degré permanent, c'est-à-dire c'est les liens affectifs... C'est l'amour, c'est cette histoire d'amour très belle avec Béatrice Dalle. Et donc, le film est sur quelque chose d'extrêmement émotif qui manque beaucoup au cinéma, je trouve. C'est-à-dire ce premier degré, cette manière comme ça de mettre des émotions et des sentiments.
De la beauté des rencontres.
Voilà, c'est ça, tout simplement. C'est les autres qui vont me sauver. Et il y a comme ça, se dessine cette idée qu'on va faire communauté. Par exemple, c'est des idées que je pourrais trouver très, très clichés. Et le film arrive à me convaincre que, quelque part, il filme un Éden ou il filme quelque chose qui serait une sorte de paradis affectif avec ce personnage.
Cette vallée des Alpes comme un refuge. Ava ?
Bah, on pourrait rajouter parmi les influences que tu as citées aussi, Romer. Je crois qu'il est très sous influence du cinéma de Romer, ne serait-ce que là, dans la manière de suspendre le temps, voilà, cette fuite en avant pour combler un vide existentiel. Alors moi, il y a des choses qui m'ont beaucoup plu, comme la séquence d'ouverture, par exemple, parce qu'on est complètement parachuté, comme ça, dans cette station de ski hors saison. Et donc, voilà, on suit l'arrivée par les airs de Laurent. J'aime beaucoup le portrait en creux que fait le film de ce jeune homme dépressif, qui effectivement cherche des bras pour l'étreindre, qui cherche un endroit où bien se sentir. Et j'ai adoré le personnage que joue Janice Bouzian, le photographe avec qui Laurent va avoir une brève aventure. Mais comment dire, c'est un film qu'on pourrait qualifier de nonchalant. Et c'est vrai que sa nonchalance est à la fois sa qualité et son défaut. Et au bout d'un moment, cette nonchalance m'a un petit peu lassée. Voilà, le tâtonnement de Laurent m'a un petit peu lassée. J'ai adoré évidemment Béatrice Dalle aussi dans le rôle de cette mère qui tombe un petit peu sous le charme de Laurent. Et ça m'a fait penser à Miséricorde de Guiraudy. Alors il n'y a pas de champignons, pas de curé, pas de meurtre. Mais c'est vrai que c'est un marginal comme ça, immergé dans un microcosme et qui va tourner en rond. Et puis voilà, une mère célibataire qui va un peu flasher sur le héros, ce qui va mettre en rogne son fils d'ailleurs. Voilà, on retrouve comme ça des points communs.
T'as beaucoup dit du film, hein, là.
Ah, on va avoir des mails. C'est vrai. Bon.
Franck.
Ouais, ce genre de film qui est un peu sous-écrit quand même, où on suit comme ça un parcours nonchalant, l'errance, comme tu l'as dit, Ava, ça marche au charme, quoi. Il faut adhérer, ou il faut vraiment rentrer dedans. Et je pense que ce qui, vous l'avez dit, ce qui joue beaucoup pour le charme du film, ce sont ces comédiens qui sont vraiment très très bons, notamment moi je le connaissais pas, le comédien principal. Et toute cette espèce de dépression fonctionne bien. On voit un peu les échos de la dépression post-Covid sur une génération de trentenaires. Je trouve que ça c'est un peu diffus dans tout le film. Et je trouve que ça en fait une des forces aussi, la force aussi qu'on peut avoir de se retrouver dans ces personnages un peu paumés. Et puis voilà, moi, mettez-moi Janice Bouziani et Béatrice Dalle dans tous les films, je serai content.
Pierre.
Ben, c'est un film tendre, c'est assez rare dans le cinéma français, c'est un film tendre. Et c'est un film sur des inadaptés dont on a envie de partager pendant un temps, peut-être pas tout le temps, parce que tout le temps, on les aurait tout le temps sur le dos, peut-être qu'ils finiraient un peu par agacer. Mais là, pendant quelques minutes, quelques quarts d'heure, on les voit évoluer un peu lentement dans des paysages un peu immobiles, et on est avec eux. Et moi, par exemple, il y a cette silhouette de photographe qui photographie dans
un virage
déserte. il se met là et il photographie qui ? Les rares passants. Alors, ils ne sont pas beaucoup. Et il attend là. Il et il y a une espèce de quiétude dans cette déprime générale qui, moi, m'a beaucoup touché, plus le personnage de Béatrice Dalle, qui est formidable. C'est rare dans le cinéma français, cette envie d'être avec les gens, de les regarder et de partager leurs doutes, leurs désillusions, leurs chagrins.
Je sais que des avant-premières ont eu lieu concernant Laurent dans le vent. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir ? Guy souhaite intervenir.
Bien, ben moi j'ai passé une quinzaine très difficile, à part le film brésilien que j'ai trouvé formidable.
Ah, mais on n'en a pas, c'est pas encore au programme, vous anticipez hein, le programme.
Avec le Kechiche qui a perdu la main, et le pompon, c'était celui-là.
Ah, voilà. Mince.
Donc effectivement, je l'ai vu en avant-première, j'ai vu les trois zigotos venir défendre leur film avec toute l'équipe du cinéma, et puis il y a eu des prises de parole de vingtenaires et de trentenaires qui se sont reconnus effectivement dans ce film, avec l'idée d'aquabonisme. On attend que le temps se passe, on n'a pas d'envie, et c'est très bien comme ça, et on attend de mûrir. Et donc moi, comme je suis déjà bien mûr, je n'ai pas adhéré du tout. Et effectivement, j'ai pensé en sortant à Romère, à Tati, à...
Ce qui est bien.
À Piala.
Ce qui est flatteur.
Je continue à m'interroger quoi, sur le futur du cinéma français. Quoi. Ah. Voilà.
Est-ce que des trentenaires souhaiteraient prendre... Oui, bonjour.
Bonjour. Alors, je ne suis pas du tout d'accord avec ce qui vient d'être dit. Moi, je trouve que c'est un très, très beau film, tant esthétiquement que sur la vision des gens qui vivent dans cette petite vallée, là, dans cette petite station. Et vous n'avez pas parlé du personnage de la vieille dame, ouais, avec qui il se lie d'amitié et avec qui il va... Avec qui il va picoler, en fait. Il va l'accompagner sur une partie de sa vie. Et c'est, voilà. Il y a aussi la solitude qu'on voit des gens que d'habitude, on ne voit pas.
Merci beaucoup pour votre intervention. Quelqu'un d'autre pour Laurent dans le vent ? Non. On passe alors à l'agent secret, puisque Guy avait anticipé le programme. L'agent secret de Kléber Mendonça Filho, qui a remporté deux prix lors du dernier festival de Cannes, celui de la mise en scène et celui de l'interprétation masculine pour Wagner Maura, qui fut Pablo Escobar dans la série Narcos. Nous sommes en 1977, sous la dictature brésilienne, et Marcelo se rend à Recife pour revoir les siens, son petit garçon en particulier. Le gamin vit chez les beaux-parents de Marcelo et rêve de voir Les Dents de la Mer au cinéma. Le film de Spielberg infuse la réalité puisqu'à Recife, on retrouve une jambe humaine dans la gueule d'un requin. C'est le carnaval, raison pour laquelle le commissaire local a encore quelques confettis dans les cheveux, et Marcelo tente de commencer une nouvelle vie. Il est d'abord hébergé dans une pension où sont logés des opposants politiques. On comprend alors que Marcelo est en fuite, pour des raisons qui s'éclairciront petit à petit. L'histoire de Marcelo est recomposée par deux étudiantes d'aujourd'hui qui enquêtent sur sa vie. Thriller, film politique sur la mémoire, parfois drôle, parfois gore, en même temps qu'un hommage au cinéma, L'Agent secret est une polyphonie avec un titre comme une fausse piste, puisqu'il n'y est pas question d'espion. Franck.
Alors oui, L'Agent secret, c'est le quatrième film de fiction de Kléber Mendonça Filho, qui est quand même, à mon sens, le cinéaste contemporain le plus passionnant qui soit. Il le prouve avec ce film-là, qui est, je pense... avec Aquarius, qu'il avait sorti il y a quelques années, son plus grand film. Il le prouve parce qu'il n'y a aucun didactisme dans sa façon de faire du cinéma. C'est très lié à des choses très sensorielles. Alors, effectivement, c'est un film politique. Effectivement, on parle des années de dictature au Brésil, mais rien n'est didactique. Tout passe par l'humain, par le sentiment humain, par le lien humain. C'est vraiment la force de son cinéma. Et en même temps, c'est aussi un amoureux du cinéma qui lui rend hommage par chaque plan, quoi, en fait. L'idée de faire un thriller, mais qui soit en même temps une comédie, en même temps un film gore, en même temps un film archi-sensuel par instant, c'est une déclaration d'amour au cinéma. En fait, c'est le Tarantino brésilien, mais qui aurait réussi son coup, pour moi.
Pierre.
Oui, c'est ça, mais quel metteur en scène, ce type. Parce que vraiment, pour moi, c'est ça, un metteur en scène. C'est-à-dire qu'il prend un scénario, et puis il le fait respirer. Il y a des échappées belles tout le temps dans le film. Donc, en effet, ça commence par un cadavre que personne n'arrive à retirer, et qui, sous une bâche, comme ça, dans une station-service. Et puis, on s'en va vers le romanesque. Et puis, brusquement, il vous dit, ah, 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 il y a les dents de la mer, donc je vais vous inventer une jambe poilue qui est dans l'espoir de mémoire, un fantasme général. ce cinéaste fait ce qu'il veut de son histoire, de la mise en scène, de nous. De nous, parce qu'il nous amène constamment à l'accepter. Brusquement, ça devient un polar, et là, il montre à quel point il sait filmer une poursuite, un meurtre, des gens qui se suivent. Ça. C'est absolument ahurissant ce qu'il arrive à faire. Enfin, je me demande...
Et dire ce qu'est la dictature et ce que fait la dictature brésilienne, son discours.
Mais c'est ça qui est formidable, c'est que quelquefois, les films politique nous assène des évidences. Et là, c'est un grand film politique qui avance, si j'ose dire, masqué. Mais c'est à nous de le découvrir, c'est à nous de comprendre. On a du travail à faire avec lui, et c'est génial, un spectateur qui travaille. Je me demande si c'était pas ça, la Palme d'Or.
Moi, je suis tout à fait d'accord, c'était la Palme d'Or.
Muriel.
Non, je trouve qu'il y a des très belles choses. Enfin,
je sens poindre un mais. Quand elle commence comme ça, ça veut dire mais.
Mais c'est ça.
Non, mais moi, ce qui me touche le plus, c'est le regard qu'il a sur ses acteurs et le désir, le regard qu'il pose comme ça. Et c'est comme Laurent dans le vent sur les acteurs qui sont, qui ont de tous les âges. Il y a vraiment un vrai désir et une vraie sensualité qui jaillit et qui est la chose qui m'a intéressée le plus. Je suis un peu plus... En fait, je suis ressortie un peu frustrée du film. Je me suis dit, il ne m'habite pas, il ne me hante pas comme il aurait dû me hanter. Parce que c'est un film qui aurait dû me travailler.
Tu n'en gardes pas des images? Sort de la salle avec quand même des...
Ah non, non pas du tout.
Enfin,
justement, j'insiste un peu sur... Mon cerveau insiste un peu sur les défauts. Ou en tout cas, j'ai le sentiment d'avoir eu beaucoup d'effets de coquetterie ou de séduction. C'est-à-dire le chat de visage, l'agent poilu, j'ai trouvé ça lourdingue. J'ai vraiment vu...
C'est génial, l'agent poilu.
Non, pour moi, c'est un film qui essaye de séduire son spectateur et qui essaye de faire beaucoup de choses. Ah. J'ai l'impression qu'il y a un peu comme ça un truc de Kleber Mendoza, de « Je suis le cinéaste officiel du Brésil et je vais raconter un milliard de choses. »
C'est pas lui le cinéaste officiel du Brésil, c'est Walter Salles.
Le cinéma comme contre-pouvoir.
De la résistance. Oui.
Et je trouve qu'il essaye trop de choses et que le film est exactement ce que je m'attendais à ce qu'il soit. Mais vraiment, jusqu'à sa bizarrerie, jusqu'à ses sorties de route, j'étais quand même dans quelque chose d'extrêmement borné. Et c'est pour ça que... Et je pense que c'est pas la vraie influence du film, c'est Munich de Spielberg, en fait. C'est-à-dire que le film est hanté par le Munich de Spielberg.
Oh, pas du
c'est qu'il
tout.
Essaye à la fois d'être...
Ah, pourquoi tu dis ça,
parce qu'il y a un milliard de scènes qui sont reprises de
Munich. Un milliard de scènes?
Non, mais c'est à la fois cette idée d'un cinéma qui se veut mainstream et qui se veut auteur. Et donc, à trop essayer deux choses... Pour moi, tout est un peu inachevé.
Bah Spielberg, c'est quand même plus primaire. Quand même. Là, c'est très subtil.
Non, ça peut être très subtil, Spielberg. Mais on en rediscute.
C'est un autre débat. Ouais. Ava.
Eh ben moi, je suis sans mais. J'ai trouvé que c'était un film effectivement brillant, absolument passionnant. C'est tout ce que j'aime pour le coup. Un récit à tiroir qui mêle l'intime et le politique. La mise en scène, vous en avez parlé.
Tu aimes les jambes poilues dans une gueule de requin.
Exactement. J'aime aussi les héros qui ne sont pas des héros ordinaires et qui résistent au rôle et aux identités qu'on veut lui asséner. Et je trouve ça très intéressant parce qu'on voit la manière dont Kleber Mendoza Filho filme le corps du héros. Il est tout le temps en mouvement. En fait.
Wagner Maura,
extraordinaire. Ouais. Il est tout le temps dans le mouvement et en fait on le voit comme ça dériver dans l'espace et dans le temps parce que le film joue des effets miroirs, on l'a pas dit, entre les années 70 et le présent par l'entremise d'une jeune étudiante en histoire qui va travailler, se documenter sur les mouvements de résistance pendant la dictature et qui va comme ça retrouver la trace de Marcelo / Armando puisque voilà, il a plusieurs identités. Donc c'est pas du tout une reconstitution documentaire ou linéaire, de ce qu'étaient les années noires du Brésil, mais une restitution mémorielle, personnelle, sensorielle, et ça passe par l'éclatement d'un récit, ça passe par la légende urbaine dont tu as parlé, Rebecca, avec cette jambe poilue, et vraiment, pardon, mais la séquence est anthologique, elle est à crever de rire en plus, et elle dit très bien la violence arbitraire et absurde, évidemment, de la dictature. Donc voilà, moi j'ai adoré suivre ce héros, il m'a donné des sueurs froides, évidemment. Il est Hitchcockien en diable parce qu'il a la mort aux trousses. Et encore une fois, répétons-le, Wagner Moura, bisous.
Cœur sur lui.
Ouais.
Je crois que c'est une tribune où il y a le plus grand nombre de cinéastes cités. Est-ce que quelqu'un souhaite participer à ce débat concernant l'agent secret de Kleber Mendoza Filho? Alors on passe à La femme de ménage, adaptation du best-seller de Frida McFadden, réalisé par l'américain Paul Feig, par ailleurs auteur du culte, selon moi, de Mes meilleurs amis, sorti en 2011. La femme de ménage, c'est Millie, jeune femme qui pense avoir décroché le boulot idéal. Elle était aux abois et la voici employée dans un décor de rêve, le manoir des Winchester, couple riche avec enfants. Si Nina, patronne de Millie, est d'abord avenante, elle se révèle adepte de la torture psychologique, disons. Tout ça sous les yeux d'un mari qui ne se rend pas compte de grand-chose et de gosses qui refusent d'ingérer des coquillettes. Mensonges, secrets, manipulations, le duo de femmes est composé par Sydney Sweeney, dans le rôle de Millie, et Amanda Seyfried, dans celui de la patronne. Certaines portes ne devraient jamais être ouvertes, tel est le sous-titre de ce film. Faut-il donc pousser les portes des cinémas pour voir la femme de ménage? Quelle est ta réponse, Pierre?
Sûrement pas. Sûrement pas, sûrement pas. Non, mais ce type de scénario psychopatho, P-A-T-H-O et P-A-T-A-U-D, ça nécessite...
pas mal.
Ça nécessite trois choses, à mon avis. Il faut un excellent réalisateur. On parlait tout à l'heure d'un grand réalisateur. Il faut un réalisateur. Là, il y a un monsieur... qui n'est pas déshonorant, mais enfin, il fait moteur coupé. Ah tiens, on va peut-être faire la caméra par là pendant... Voilà, c'est rien, c'est pas un cinéaste. Mais bon, c'est un illustrateur. Donc, il y a ça. Il faut que dans ce type de scénario psychopatho, il faut que il y a une logique dans l'illogique totale. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se sente en danger. Là, pas une minute, on se sent en danger, ni même les personnages. Je me demande pourquoi, devant le danger, ils s'en vont pas tous. Ils peuvent partir, ils peuvent... Là, c'est la liberté totale. Alors, il y a une vague explication psychologique. Ah non, je peux pas partir parce que j'ai... Enfin, ça ne tient pas la route. Et puis, il faut des acteurs splendides. Et là, c'est pas le cas non plus. Alors, si, il y a Sydney Sweeney qui est plutôt bien, mais hélas, il y a Amanda Seyfried qui est une... Elle grimace, elle pleure. C'est l'horreur absolue. Donc, c'est pas la peine de pousser la porte.
Je te passe pas la parole là-bas parce que tu n'as pas pu voir le film. Muriel ?
J'avoue, j'ai un petit faible. Alors, pour ça.
Ah ?
Pour les...
ah.
Non, mais le faible, pas voilà.
L'agent secret, oui. La femme de ménage, non, pourquoi pas ?
Pardon. C'est
le début d'année.
C'est le début d'année, on est fatigué. Non, en fait, le truc, c'est que ce qui me passionne, déjà, c'est que j'avais pas lu le livre, qui est quand même. On est tous allés à la Fnac, et on s'est dit, mais pourquoi tout le monde. C'est vraiment le top des ventes, et je savais pas de quoi ça parlait, et là, j'ai compris, en fait, que. Ce qui m'intéresse, en fait, c'est cette idée du gothique féminin, en fait. Parce que c'est vraiment une réécriture de Jeanne Eyre de Charlotte Brontë, mais avec un moment... Sauf que la femme folle du roman de Brontë, en fait, ça va être une victime. Bon, désolée pour l'énorme spoil, mais bon, je pense que tout le monde a lu le livre. Et donc, moi, j'aime beaucoup ces films hollywoodiens qui parlent de cette sphère domestique qui se retourne contre les femmes. Et alors, évidemment, il y avait, je pense, la possibilité de faire un grand film avec ce scénario, parce que voilà, on est à la fois sur quelque chose qui rappelle Gone Girl de Fincher, qui rappelle... les romans des Brontë, qui rappellent beaucoup de choses. Moi, j'ai pensé à beaucoup, beaucoup de films américains, mais on a Paul Feig qui, de fait, ne travaille pas du tout les secrets et les mystères du scénario et qui, comme tu l'as dit, Pierre, filme vraiment, illustre son scénario et ne donne absolument aucun relief à ce qui aurait vraiment pu être un grand film. Moi, c'est ça que j'ai vu. Et en même temps, il y a un peu ce côté sitcom, téléfilmesque, voilà, série qui passe à 15h dans une banlieue américaine qui... moi, vraiment, me fascine. Donc voilà, en fait, c'est un bon téléfilm, mais je pense que voilà, ça n'intéresse que moi.
Est-ce que ça t'intéresse, toi, Franck ?
Ça ne m'intéresse pas des masses non plus, mais tu parlais des acteurs, Pierre, tout à l'heure, mais le problème, c'est les personnages. Enfin, on n'y croit pas, quoi. Ils sont tellement une suite de clichés les uns et les autres qu'on n'y croit pas. Non. On ne peut pas croire en ces personnages. L'intrigue, elle est, si je puis me permettre, tirée par les cheveux. Vous comprendrez quand vous verrez le film. Et en fait, je ne crois à rien. Et puis en même temps, j'ai l'impression que c'est un revenge movie, mais la revenge arrive tellement tard qu'on se tape quand même quasiment une heure et demie où les gens se torturent psychologiquement, physiquement, et pendant une grande partie du film, deux femmes se torturent entre elles. Ça dit beaucoup de choses de ce qui se passe aux États-Unis en ce moment, quand même.
Quelqu'un aurait-il vu La femme de ménage de Paul Feig dans le public ?
Même la fadeur de l'acteur est fascinante, quoi. Enfin, elle est tellement fade que ça en est génial, quoi.
Il n'y a que les muscles qui parlent, quoi.
Il est.
Oh, il n'est pas pire que sa partenaire l'a torturé.
Ah si, quand même.
Muriel Boudet, fascinée par la fadeur du comédien. Après La femme de ménage, on termine avec le nouveau film de Fatih Akin intitulé Une enfance allemande, Il Damrum, 1945. Alors tout est dit, ou presque, dans ce titre, puisque nous sommes dans les derniers jours du Troisième Reich, sur une île au large de l'Allemagne, en mer du Nord. Nanning, un garçon de 12 ans, y vit avec sa tante, ses frères et sœurs et sa mère, qui attend un quatrième enfant. À l'annonce de la chute d'Hitler, la mère entre en dépression. Nanning lui-même appartient aux jeunesses hitlériennes, sans savoir vraiment de quoi il s'agit. Et afin de redonner vie et espoir à sa mère, Nanning va tout faire pour lui offrir ce dont elle rêve, du pain blanc avec du beurre et du miel, alors que la nourriture manque sur l'île. Le tout se déroule entre ciel et mer, dans des paysages plats comme la paume. Le film devait être réalisé par le cinéaste allemand Arkbaum, qui a coécrit le scénario inspiré de sa jeunesse. Arkbaum est décédé en novembre dernier, et avant de mourir, il avait confié la réalisation du film à Fatih Akin. Ava.
Alors, c'est vrai que moi, je trouve globalement les films de Fatih Akin assez lourds et démonstratifs, et je suis un peu partagée en ce qui concerne une enfance allemande, parce que d'un côté, je trouve le décor, le contexte et le point de vue hyper intéressant, hein, c'est vrai, la fin de la guerre, la chute d'Hitler à travers les yeux d'un petit garçon arien, écartelé, voilà, entre sa mère qui est corps et âme dévouée à l'idéologie nazie et sa tante qui est complètement hostile au régime, qui appartient, comme tu l'as dit, aux jeunesses hitlériennes aussi, mais qui va nouer une amitié avec un petit garçon de l'île qui partage pas du tout les mêmes valeurs que lui et va lui donner à lire Moby Dick.
Donc, oui, voilà, c'est un récit initial.
Exactement.
Sur le bien,
et c'est vrai que c'est très intéressant parce que la fin de la guerre, on la voit pas souvent du point de vue des vaincus. Et là, on voit bien que c'est la fin d'un monde, hein, pour Nanning, qu'il va apprendre ce que c'est que le goût amer de la défaite et le goût de la fin des privilèges. Sauf que la forme, je la trouve assez ordinaire. En fait, le film, il est trop lisse pour que j'y adhère. Il joue avec des sentiments qui sont des sentiments inconfortable, voilà, il remue des choses qui sont pas aimables, mais le film reste dans une joliesse qui, moi, me fait, enfin voilà, m'attire pas du tout. Il a quand même le bon goût, Fatih Akin, de pas tomber dans le spectaculaire ou de pas tomber dans le pathos. C'est vrai qu'il emploie, comment je pourrais dire, la méthode un peu douce amère, mais je trouve que l'ensemble est assez tiède.
Franck ?
Oui, moi je trouve que la mise en scène, justement, est plutôt en rapport avec le sujet. Il en fait pas qu'un objet grandiloquent, il en fait une espèce de conte philosophique dans un joli camaïeu de bleu, vert, gris, beige. Moi, je trouve que c'est vraiment tenu en termes de mise en scène, que justement, c'est cadré, on est au plus près de ce gamin. Moi, je t'avoue que sur le papier, à l'issue des derniers jours de la guerre, sur une île paumée par un petit nazi de 12 ans, ça me le faisait pas. Et en fait, je suis sorti hyper convaincu. J'ai vraiment aimé la finesse du récit, la façon dont il fait de cet enfant le porteur d'un sentiment national quelque part dans ce pays, des bouleversements qui se passent, dans cette île qui est plutôt hostile au régime. Enfin, il y a vraiment énormément de choses intéressantes. Et puis, c'est magnifique cette idée de la tartine de miel où il faut trouver tous les ingrédients. Enfin, moi, ça m'a vraiment enchanté.
Et qui prend des allures de conte. Muriel ?
Ah oui, la tartine, c'est la meilleure idée. C'est-à-dire cette idée de l'enfant qui s'obsède pour le désir de sa mère, puis qui se rend compte qu'en fait, bon, voilà. Elle s'en fout. Bon, spoil encore, mais.
Ah là là là
mais du coup, il va chercher les ingrédients.
Mais on dirait Pierre Murat.
C'est mon rôle de spoiler l'intuque.
C'est vrai qu'on a un peu pris ton rôle aujourd'hui.
Faut partager.
Désolée.
Non, mais moi j'aime beaucoup. Je pense que le scénario aurait pu donner. Moi j'aime beaucoup quand l'enfance est âpre au cinéma, quand elle est violente. Et il y a plein de films comme ça où on pense évidemment, enfin pas tout à fait, mais à Requiem pour un massacre. C'est-à-dire cette idée de filmer la guerre à hauteur d'enfant. Sauf que évidemment Requiem pour un massacre est un immense film et Une enfance allemande est un super scénario qui aurait pu donner un film âpre, mais qui donne, là je rejoins Ava, un film très académique où on a toujours cette même patine des films historiques où on a l'impression que voilà, on n'a pas l'impression de voir des gens en costume, des acteurs en costume, la lumière est un peu moche, c'est très académique et c'est dommage parce que je pense que la forme aurait pu correspondre à l'âpreté du scénario, ouais. Et qu'on aurait pu être sur quelque chose comme Bill Douglas ou tous ces cinéastes qui ont filmé l'enfance comme un territoire de violence absolue. Et là, Fatih Akin, il est pour moi sur un truc de service minimum absolu, quoi.
Pierre ?
Moi, je suis d'accord avec Franck. Je trouve que moi, j'avais perdu pratiquement tout espoir en Fatih Akin depuis pas mal de temps, quand on pense à ses premiers films, ouais. Head On ou De l'autre côté, qui était magnifique. Et là, j'ai retrouvé une sorte... Parce que, oui, c'est vrai que ça a l'air comme ça un peu académique. Oui. Mais il y a quand même une... Oui, mais moi, je trouve qu'il y a justement une cruauté qui est tout le temps là dans la peinture de cette femme qui s'accroche au nazisme, qui s'accroche à son passé. Et puis la mort, il y a une mort brusquement que l'on découvre, c'est très cruel. Et puis aussi la façon dont ce gamin est accueilli, les rapports difficiles qu'il a, je trouve que ça a l'air académique, et curieusement, ça l'est beaucoup moins que ça en a l'air. Et puis, il y a quand même une grande qualité, c'est d'avoir trouvé un gamin absolument formidable. Il s'appelle, je crois, Jasper Bilerbeck.
Oui.
Et tout se lit sur son visage, le moindre émotion, le moindre événement. C'est vrai que c'est pas du tout filmé comme Vittorio De Sica, le voleur de bicyclette, mais j'ai trouvé que le gamin avait cette force-là d'imposer ses sentiments et ses sensations, et je trouve très émouvant, et grâce à lui, moi je suis entré dans cette histoire.
Est-ce que quelqu'un a vu Une enfance allemande de Fatih Akin en avant-première et pour intervenir dans le débat? Non. Alors, avant la présentation de vos coups de cœur, il est d'usage de placer la virgule que voici. Ava, quel est ton premier coup de cœur de l'année?
Alors moi, si vous avez encore des cadeaux de Noël en retard à faire à vos copines et copains cinéphiles, je vous recommande le deuxième volume du livre que consacrent Frédéric Mercier et Christophe Chabert à Steven Soderbergh, hein, le papa de Sexe, Mensonges et Vidéos, de Trafic, des Ocean's Eleven. Le premier volume ciblait les années analogiques de son cinéma, donc de ses tout débuts jusqu'à la première partie du Che avec Benicio del Toro. Et le deuxième volume décrypte ces années numériques, donc le façonnage de son esthétique digitale, sa rupture avec Hollywood et son glissement vers la télévision et les plateformes de streaming. Et je trouve que voilà, l'approche chronologique remet extrêmement bien en perspective toute l'œuvre du cinéaste, mais aussi sa quête de liberté créatrice dans une industrie cinématographique de plus en plus corsetée. Donc ça s'appelle Soderbergh, les années numériques. C'est le volume 2 et ça sort chez Marest Édition.
De Frédéric Mercier et Christophe Chabert. Pierre?
Alors, on a beaucoup réveillonné, on a bien mangé, on a bu avec modération, mais voilà.
Bien
donc
sûr.
Maintenant, on peut repasser maintenant aux choses sérieuses, c'est-à-dire le cinéma. Et donc, je vous propose chez Carlotta, un coffret Edward Yang, qui est un cinéaste encore méconnu et que moi, j'ai presque redécouvert à l'occasion de ce coffret de 4 films. Alors, il y a évidemment I.I., qui est le film le plus célèbre d'Edward Yang et que Carlotta a réédite aussi. Mais j'ai découvert des films que j'avais jamais vus, dont 3 qui s'appellent Les Terroristes, Confusion chez Confucius, c'est déjà un titre qui me plaît beaucoup, et Mahjong avec Virginie Ledoyen. Et je trouve que ce sont des films magnifiques. Alors, pour deux raisons essentielles. D'abord, il y a un nombre incalculable de personnages. C'est très difficile un metteur en scène qui sait donner la chance égale à tous les personnages. Robert Altman savait faire ça très bien en Amérique, un peu Wes Anderson, mais moins, et lui y arrive absolument formidablement. Et puis alors, il peint des personnages quelquefois ridicules, quelquefois émouvants. Il peint essentiellement dans ses 3 films sa ville, Taipei, dans les années 80-90, mais curieusement, en voyant ses films, moi j'ai découvert que c'était des films qui parlaient de nous actuellement, parce que c'est éternel et c'est aussi proche que des pièces de Tchekhov. Donc vraiment, redécouvrez ces films, Les Terroristes, Confusion chez Confucius, Mahjong, donc dans un coffret chez Carlotta Film.
Franck?
Moi, je voulais vous parler d'une série qui a été diffusée sur Arte courant décembre et qui est donc rattrapable d'urgence sur le replay. C'est une série qui s'appelle Les Saisons, qui a été réalisée par Nicolas Maury. Alors, Nicolas Maury, on l'a connu parce qu'il a...
Par la série 10%.
Il était Hervé dans 10%. Et puis, il a commencé avec un film qui s'appelait Garçon chiffon. Et là, je trouve que vraiment, il a trouvé sa veine de cinéaste. On le voit dans cette série en 4 épisodes qui suit le destin d'un trio amoureux qui se rencontre adolescent au Sable d'Olonne durant l'été. Et on les suit pendant 30 ans. Sur 4 épisodes, qui chacun représente une saison à quelques années d'écart. Et je trouve que la série est à la fois merveilleusement réalisée. Je trouve qu'il y a un sens du jeu avec les ellipses, puisqu'on apprend forcément beaucoup de choses à chaque fois de façon insidieuse, comme ça, quand on suit ces personnages tous les 10 ans. C'est vraiment bien réalisé, c'est très très beau. pour une série télé. Ça va, je pense, vous étonner parce que c'est très très différent de ce qu'on peut voir habituellement dans les séries télé. Voilà. Et Nicolas Maury joue dans la série aussi, puisqu'avec Géraldine Pellas, ils font le couple de parents et ils sont tous les deux bouleversants.
Les saisons donc que l'on peut visionner sur arte.tv. Muriel.
Alors moi, s'il vous reste de l'argent, c'est le début d'année, c'est le coffret Rock Hudson, Portrait d'une légende. Il y a 10 films de Rock Hudson, 10 immenses. Alors, il y en a quelques-uns qui sont vraiment des chefs-d'œuvre assez connus. Le Secret Magnifique, Douglas Sirk, Le Sport Favori de l'Homme d'Howard Hawks, et puis des très belles comédies romantiques 60s qu'on connaît un peu moins, avec des super beaux titres, Les Rendez-vous de Septembre, Étrange Compagnon de lit ou Pique-nique en pyjama. Et ce que je trouve passionnant à observer, et c'est ce que moi j'adore dans l'histoire d'Hollywood, c'est que Rock Hudson a été une immense star, mais qui était aussi enfermée dans le carcan, dans l'image d'une virilité hétérosexuelle sereine et rassurante, alors que lui-même aura passé sa carrière à cacher son homosexualité. Il est mort du sida en 85, et l'annonce de sa mort a vraiment opéré comme un coup de tonnerre, puisque l'image s'est complètement renversée. Visionnage accompagné de la lecture d'un très beau livre qui s'appelle « Géant, vie et mort de Rock Hudson » d'Adrien Gombeau, aux éditions Capricci, qui est un livre de coulisses très beau et très triste aussi, qui vraiment fait jaillir toute la tristesse de ce personnage. Et Adrien Gombeau a cette formule très belle à propos de Rock Hudson, qui était un superbe cadeau des studios aux adolescentes et aux adolescents, du coup.
Muriel Joudet, Franck Finance Madurera, Pierre Murat, Ava Kahn, merci d'avoir participé à cet épisode du Masque. Je vous rappelle que les votes restent ouverts pour élire votre film français et votre film étranger de l'année 2025. Pour faire part de vos choix, vous pouvez nous adresser un mail, et je récupère ma voix, à l'adresse lemasqueetlaplume@radiofrance.com, le masque et la plume tout attaché en minuscule, @radiofrance.com. Nos prochains enregistrements auront lieu au Théâtre de l'Alliance française le jeudi 22 janvier entre 19 et 21h. Nous débattrons de l'actualité de la scène et du cinéma. Stéphane Le Guenec réalise Le Masque et c'était avec Valérie Lavalard, Titouan Oex et Romain Lenoir. Aujourd'hui, Ilinka Negulesco coprogramme l'émission et la prépare avec l'aide de Zora Dégoutte. Ma bande et moi vous retrouvons dimanche prochain pour des enthousiasmes, des désaccords, une liberté critique dans tous les cas et sur France Inter, évidemment.